Comment prier avec Henri Caffarel. À l'heure où tant de gens se tournent vers les pays orientaux pour y trouver une nourriture spirituelle qui semble manquer dans les sociétés industrialisées, Henri Caffarel a fondé près de Paris une maison de réflexion et de prière. Il s'agit d'un véritable ashram chrétien où convergent chaque année des quatre coins du monde des centaines de gens de tout âge. Marcel Brisebois a demandé à Henri Caffarel ce qui se passe dans cette maison de prière.
Henri Caffarel, Troussure est une maison de prière. Pourquoi est-ce si difficile de prier?
Qu'est-ce qui vous dit que c'est difficile de prier?
Mon expérience personnelle.
Peut-être que d'autres pourraient apporter une toute autre expérience et vous dire que prier, c'est facile.
C'est facile pour vous.
Et peut-être que l'on se complique la tâche.
Qu'est-ce que vous voulez dire, on se complique la tâche?
Bien, peut-être se fait-on de la prière une idée qui n'est pas la bonne. Si l'on veut, dans la prière, tenir à Dieu des discours à la Bossuet, si l'on veut, dans la prière, se livrer à des méditations profondes, faire de la théologie ou de la métaphysique, si l'on veut, dans la prière, ne pas perdre un instant Dieu du regard, si tant est qu'on puisse employer une pareille expression, c'est évident que la prière est difficile, qu'elle est impossible. Mais il y a une autre façon de concevoir la prière.
Et quelle est-elle?
C'est un monde. Je vous invite à venir passer 6 jours ici. Et après une semaine de prière, on voit un peu mieux. Alors, en quoi consiste la prière? Mais
qu'est-ce qui se passe ici durant ces 6 jours que je pourrais y passer?
Ce qui se passe?
Pour que je comprenne mieux.
Eh bien, comme je le dis dès le départ à ceux qui viennent, ça doit être pour chacun de vous, d'ailleurs, c'est probablement ce que vous désirez les uns et les autres, une rencontre personnelle avec Dieu. Et la maison de Troussure, les collaborateurs que vous avez entrevus tout à l'heure, moi-même, nous sommes là simplement pour favoriser cette rencontre. Si dans la maison nous avons un souci de beauté, si nous avons un souci d'ordre, c'est pour faire en sorte que la maison du Seigneur soit accueillante pour ceux qui viennent, c'est pour faire en sorte que ceux qui viennent soient dans des conditions de paix, d'harmonie, de beauté, d'affection, et qui leur permettront au maximum de rencontrer le Seigneur pendant 6 jours. Alors la grande loi, c'est d'abord la loi du silence. Impitoyable.
La loi du silence.
Impitoyable. 6 jours de silence intégral.
Parfois intolérable avec soi-même.
Et bien sûr, parce qu'on voudrait prendre la fuite, parce qu'on n'a pas envie de se rencontrer soi-même ou de rencontrer le Seigneur. Car on a bien envie de temps en temps que le Seigneur nous fasse quelques compliments ou nous offre quelques cadeaux. Mais être affronté au Seigneur, il y en a que ça gêne. Il y en a au contraire qui n'ont pas d'autre désir que cette rencontre et qui sont devant le Seigneur un livre ouvert, un drap déployé au soleil. Mais il y a quantité de gens qui, un peu comme des enfants qui ont mauvaise conscience, essayent de fuir le Seigneur du regard. Alors ceux-là, ils n'arriveront pas à prier, bien sûr.
Ce qui veut dire qu'il faut donc être déjà en accord avec Dieu pour pouvoir prier.
Qu'entend-on par en accord? Être de bonne volonté, comme le Christ l'a dit. Ceux que Dieu aime, ce sont les hommes de bon vouloir. Pécheurs, nous sommes tous. Mais des pécheurs qui, précisément, n'aiment pas leur péché et aiment le Seigneur. Aiment le Seigneur plus qu'ils n'aiment leur péché.
Et qu'en est-il de ceux qui sont révoltés?
Ceux qui viennent, qui sont révoltés, probablement ne viennent pas ici. Ceux qui viennent ici, ce sont des êtres qui ont des états d'esprit très variés. Mais on peut dire que pour la plupart, ce sont des êtres qui espèrent une rencontre avec le Seigneur ou une rencontre plus profonde avec un Seigneur qu'ils ont déjà rencontré.
Quelle est la part du sentiment dans cette rencontre? Vous avez parlé de la beauté tout à l'heure, n'est-ce pas? Vous avez parlé, donc, des sens, d'une certaine sensibilité. Quelle est la part du sentiment dans la prière? Et qu'en est-il quand le sentiment se trouve déçu?
Je pourrais vous définir la prière un élan de tout l'homme vers Dieu. Seulement, pour aller vers Dieu, tout d'une pièce, il faut être unifié. Il faut que le corps, la sensibilité, l'imagination, la raison, le moi profond, tout cela ne fasse qu'un tout. Et la plupart des êtres sont divisés. Il y a querelle à l'intérieur de beaucoup de gens, querelle entre le corps et l'âme, querelle entre l'affectivité et la raison. Et c'est ce qui fait que c'est pour beaucoup pas tellement facile. C'est pas tellement facile parce que précisément, ils s'imaginent qu'il faudrait tout de suite et d'emblée être devant le Seigneur parfaitement unifié et parfaitement attentif à Dieu. C'est pas l'essentiel de la prière. C'est indispensable de demander quand on prie au corps son concours. Sinon, il sera un rebelle, un contestataire, il gênera la prière. C'est souhaitable que l'affectivité s'apaise. Et c'est pourquoi il peut être utile avant la prière. Et je parle de la prière dont on parle ici, c'est-à-dire de la prière intérieure, de cette prière qu'on appelle l'oraison. Je ne parle pas de la prière liturgique, je ne parle pas de la prière vocale, c'est autre chose, c'est un autre sujet. Je parle donc de cette prière qu'on enseigne dans cette maison, appelée oraison ou méditation ou prière intérieure, peu importe les dénominations, mais cette prière qui consiste à être devant Dieu 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, 2 heures. D'être devant Dieu à la chapelle, d'être devant Dieu dans sa chambre, ou d'être devant Dieu assis sur un gros chêne, sous un gros chêne dans la futaie. Mais d'être là, avec pour seul interlocuteur le Seigneur, et avec le seul désir de rencontrer le Seigneur et de nouer avec lui des liens plus étroits. Alors, cette prière-là, comme je le disais, il est souhaitable qu'elle nous engage tout entier, que nous allions à Dieu avec tout notre être. Mais si ce n'est pas possible, alors il faut se demander quel est l'essentiel de la prière. Est-ce l'attitude du corps? Sûrement pas, sinon l'infirme ne pourrait pas prier. Est-ce même le calme du corps? Mais il est des heures où le corps est tendu, crispé, alors la prière ne serait pas possible parce que le corps n'est pas en paix. L'essentiel de la prière, serait-ce une affectivité heureuse? Serait-ce une paix intérieure? Mais ça ne dépend pas de nous. Alors, il faudrait attendre pour prier qu'on soit dans des conditions particulièrement favorables, euphoriques. Et alors, on attendrait, et puis quitte à ce que ça ne se produise jamais. L'essentiel de la prière, serait-ce un esprit éveillé, intelligent, curieux de Dieu, capable de réfléchir, de s'enthousiasmer pour l'enseignement du Christ, pour une page d'évangile, pour les grands personnages de la Bible. C'est pas donné à tout le monde d'avoir l'esprit éveillé, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir réfléchir. Et ceux-là même qui en sont capables connaissent dans leur journée des heures où ce n'est plus du tout possible. Alors ce n'est pas une affaire de corps, ce n'est pas une affaire de sensibilité, ce n'est pas une affaire d'intelligence.
Alors c'est une affaire de quoi?
C'est une affaire de ce que j'appelle le cœur.
Qu'est-ce que c'est?
Mais en définissant le cœur comme la Bible le définit, comme Pascal le définit.
Qu'est-ce que c'est que le cœur?
Le cœur, c'est ce qui est le plus intime en moi-même. C'est, comme disent certains, le moi profond. Le cœur, c'est au fond de moi-même comme une retraite, comme une crypte intérieure, comme une grotte, disent les hindous, la Gouta, où je peux me retirer, mais dont j'ai oublié le chemin très souvent, dont la plupart des hommes ont oublié le chemin. Si bien qu'ils vivent dans toute la banlieue de leur être. Mais ils ne connaissent pas cette zone profonde de leur être. Et ils ne savent pas la rejoindre. Ils ne savent pas trouver Dieu là, car Dieu est présent au cœur. Pascal disait Dieu sensible au cœur. Mais précisément, il s'agissait non pas de l'affectivité, il s'agissait de ce cœur profond. Alors, qui veut apprendre à prier doit se préoccuper de mobiliser pour la prière toutes les autres zones de son être. Mais qui veut apprendre à prier doit d'abord essayer de découvrir le chemin du cœur. Que l'on aille en Inde, que l'on aille chez les bouddhistes, que l'on aille chez les chrétiens d'Orient, c'est partout la même démarche, chez ceux que je dis, pour qui précisément la prière ne consiste pas à sortir de soi pour rejoindre un Dieu qui est ailleurs, qui est là-haut, qui est là-bas, qui est quelque part, pour qui la prière consiste à se recueillir, c'est-à-dire à rentrer en soi-même, au plus intime de soi-même, parce que là, Dieu demeure. Jésus-Christ a dit, celui qui m'aime, il observe mes commandements, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure.
Mais l'homme de cœur, l'homme de vie intérieure, n'est-il pas un être exceptionnel, un être, je dirais même, rarissime, finalement? Est-ce que tout homme est appelé à cette démarche intérieure?
Mais tout homme est doté par Dieu de ce qui est la richesse suprême de l'être humain. Nous sommes pleins de tristesse et de douleur lorsque nous rencontrons sur notre route un handicapé mental. Nous nous disons, mon Dieu, quelle disgrâce! Être privé de l'intelligence, quelle effroyable disgrâce! Mais c'est une disgrâce beaucoup plus effroyable encore que de ne pas savoir vivre au niveau de son cœur, que de vivre à la périphérie de son être. Sainte Thérèse d'Avila parlait de ce château intérieur. Et il y a 7 demeures dans le château intérieur, jusqu'à cette demeure la plus intime précisément, là où Dieu réside. Alors la grande chose à faire, c'est précisément, premièrement, de croire qu'il y a en moi-même quelque chose qui est vraiment moi-même, le plus moi-même. Ce qui est moi-même, ce n'est pas mon corps. Ce qui est moi-même, ce n'est pas mon affectivité, ce n'est pas mon imagination, ce ne sont pas mes goûts, ce n'est pas mon intelligence. Ce qui est le plus moi-même, c'est ce moi profond. C'est là que je rencontre mon identité. Et par conséquent, c'est cela que je dois connaître. Et s'il y a tant d'êtres qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas d'identité, c'est parce qu'ils ne vivent pas à ce niveau d'eux-mêmes.
Mais comment être sûr, justement, que ce que vous appelez l'être intérieur n'est pas une espèce d'illusion, finalement?
Celui qui a fait cette expérience n'en doute jamais. Lisez la littérature hindoue, lisez la littérature bouddhiste, lisez la littérature des chrétiens d'Orient, puis lisez la littérature des grands mystiques. Ils vous disent tous que c'est beaucoup plus évident, je ne dis pas la rencontre de l'être intérieur, mais la rencontre de Dieu par l'intérieur. Ils vous disent que ils ont une certitude, une évidence, que Dieu est beaucoup plus réel pour eux que le soleil, que les étoiles et que la forêt.
Oui, mais vous dites plus réel, n'est-ce pas? Mais cette réalité-là dont vous parlez, est-ce que finalement ce n'est pas une espèce de réalité qui nous... presque illusoire, finalement. Je reviens à cette chose-là, parce que est-ce que le moi, est-ce que l'être le plus réel, n'est-ce pas, ce n'est pas finalement l'être engagé dans les réalités concrètes, dans la construction de la cité, des relations, genre, et est-ce que l'autre n'est pas finalement une fuite?
Mais je crois que c'est en Inde qu'on emploie cette comparaison. Celui qui n'a pas trouvé son cœur, c'est la roue qui n'a pas de moyeu. Regardez ce que font les rayons d'une roue qui n'a pas de moyeu. Ils vont dans tous les sens. Celui qui a trouvé son cœur, toutes ses facultés corporelles et rationnelles ont un centre. Un centre qui unifie et un centre qui est un foyer d'expansion formidable. L'homme qui vit dans son cœur a une vitalité de l'esprit, de l'affectivité et même corporelle que ne connaît pas l'autre. Tout autre est la manière de penser, d'aimer et d'agir chez quelqu'un qui a véritablement rejoint son cœur et dont toute l'activité désormais a sa source à ce niveau profond. C'est pourquoi c'est capital. Encore une fois, nous n'avons affaire la plupart du temps qu'à des roues sans moyeu. Il s'agit de le trouver, ce moyeu, la roue.
Est-ce que la prière dont vous parlez, qui consiste à aller au plus intime de soi-même, est-ce que c'est finalement un seul à seul avec Dieu?
Bien sûr, puisque c'est une question d'amour. C'est un seul à seul avec Jésus-Christ et qui m'a conquis. C'est une intimité avec le Christ. Mais le Christ ne me garde pas pour lui. Il veut m'entraîner dans l'intimité avec son Père. Donc finalement, la prière me fait entrer dans le grand dialogue du Fils avec le Père. Et si je rencontre le Père et le Fils dans cet enveloppement de l'amour qu'est l'Esprit-Saint, mais par le fait même, je rejoins l'univers.
Donc les autres tiennent une place dans la prière, d'oraison dont vous parlez.
Comment ne tiendrait-il pas une place si précisément je crois que Jésus-Christ, comme dit saint Paul, récapitule le cosmos tout entier, et notamment tous les hommes. Si je rencontre Jésus-Christ, je rencontre tous ceux qui sont en lui. Et par conséquent, en Jésus-Christ, j'entre en communication avec tous mes frères des quatre coins du monde. En Jésus-Christ, je communie à son immense pitié pour les hommes. Rappelez-vous ce passage où il disait devant les foules, « J'ai pitié de ces foules. » Je communie la pitié de Jésus-Christ, comme je communie à son amour pour le Père, comme je communie à son amour et à sa reconnaissance à l'égard de tous ces grands saints qui lui ont permis dans leur vie de faire son œuvre.
À celui qui viendrait vous dire, Henri Caffarel, j'ai prié, mais ça n'a rien donné, rien n'a changé en moi, je me retrouve comme avant, qu'est-ce que vous diriez?
Eh bien, je dirais, voulez-vous que nous regardions un peu en quoi consistait votre prière? Qu'est-ce qui est entré en jeu dans votre prière?
Je pense que beaucoup de gens, en tout cas, quand ils prient, enfin, disons que moi, quand je prie pour demander des choses, ne fût-ce que pour devenir meilleur, disons, n'est-ce pas? Et très souvent, après cette prière, rien n'est changé. Je suis tout aussi médiocre, tout aussi insignifiant. Je n'ai pas obtenu ce que je voulais. Et je me dis, mais alors à quoi bon prier?
Oui, mais est-ce l'essentiel de la prière de demander? Quand je vais chez l'épicière, je n'aime pas l'épicière, c'est pas une question d'amour, je vais lui demander une boîte de conserve ou un jus de fruits. Mais la prière, c'est au point de départ une relation interpersonnelle avec Jésus-Christ. C'est une relation d'amour. Dans une relation d'amour, il y a beaucoup de choses. Il y a la demande, il y a la louange, il y a le remerciement, il y a le repos, il y a la joie. Mais sachons bien tout de même quel est l'essentiel. C'est que précisément, il y a cette relation « je tue ». Tu es vivant, Seigneur, et je suis là, à toi, pour toi, devant toi, offert. Alors, vous dites, certains sont déçus, mais quantité de gens vont à la prière ou pour recevoir quelque chose, des cadeaux de Dieu.
Des grâces, des faveurs.
Ou bien pour éprouver quelque chose. Mais c'est terrible de vouloir sentir quelque chose. Dieu ne se sent pas. C'est pas au niveau de la sensibilité. Si l'on veut sentir à la prière, on est perdu. Il ne s'agit pas de sentir, il s'agit de croire. De croire au Dieu vivant qui m'aime et qui est là. Mais pas de sentir. Si l'on va à la prière pour se livrer à de belles spéculations, on se trouvera quelquefois épuisé, à bout de force, à bout de souffle, abruti. On ne trouvera rien et l'on sera déçu. Mais ce n'est pas ça qu'il faut chercher. Il ne faut pas vouloir être attentif, il faut pas vouloir sentir, il ne faut pas vouloir penser, il faut vouloir être offert à la disposition de celui qui m'aime.
Alors c'est quand même un acte exceptionnel et occasionnel dans la vie. Ça ne peut pas être le tissu de l'existence.
Mais bien sûr que si, parce que si mon intelligence ne peut pas être toujours active, si mon affectivité ne peut pas toujours être fervente, mon être profond, si je lui ai donné son orientation vers Dieu, mais il la garde, cette orientation. Mon imagination est très vagabonde, Mais mon orientation profonde est quand un homme aime une femme et a engagé sa vie, qu'il pense à elle ou qu'il ne pense pas à elle, mais sa vie est orientée, sa vie est fixée. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, c'est, dans le mariage, non pas uniquement les sentiments, mais un jour, ce geste terrible par lequel un homme a dit à une femme ou une femme a dit à un homme, eh bien, je veux être à toi et pour la vie. Sentiment ou pas sentiment, ils y seront bien sûr dans l'amour humain, mais c'est tout de même secondaire par rapport à ce moment capital où quelqu'un joue sa vie et où quelqu'un, par ce « je veux », s'engage et se livre.
Mais vous êtes-il arrivé, vous-même, Henri Caffarel, de vouloir prier et d'en être incapable ?
Mais maintenant, je ne suis plus dans la difficulté. Je sais que vouloir prier, c'est prier. Vouloir aimer, c'est aimer. Vouloir être à la disposition de Dieu, mais c'est être à la disposition de Dieu. Et très souvent même, j'emploie le conditionnel. Si je ne suis pas capable de dire « Je veux, Seigneur, t'aimer, être à toi et te glorifier dans cette prière », je dis « Seigneur, je voudrais bien être à ta disposition pendant cette demi-heure ou cette heure. » Et je pense que cette formule, tout en utilisant le conditionnel, « Je voudrais bien », je pense que c'est quelque chose de très grand et qui permet à Dieu d'entrer en moi. Alors c'est pourquoi je proteste quand j'entends dire que la prière est difficile. Elle a été difficile pendant de longues années dans ma vie, tant que je n'avais pas compris en quoi elle consistait exactement. Mais j'ose dire que maintenant, la prière pour moi n'est jamais difficile. Je ne veux pas dire qu'elle soit toujours agréable, c'est tout différent. Mais je sais que faire.
Mais vous est-il arrivé qu'on vous dise pourquoi je prierai ? Je travaille. Mon travail, c'est une prière. J'ai entendu moi souvent cette remarque-là. Qu'est-ce que vous répondriez ?
Mais je dirais, c'est vrai, votre travail est une prière, si précisément, entre vous et Dieu, il y a cette relation interpersonnelle. Quand le père de famille travaille à son bureau ou dans les champs, il ne pense pas nécessairement à sa femme et à ses enfants qu'il aime, mais il travaille parce qu'il les aime. Donc il continue de les aimer, même quand il travaille. Il y a des pages de Peggy admirables sur le père, sur le bûcheron qui va travailler dans la forêt et qui le fait pour ses enfants. Et c'est là grand amour pour ses enfants que de travailler et de peiner dans la forêt. Ben, c'est la même chose. Du matin au soir, je prie parce que j'aime Dieu dans toutes mes tâches. Encore faut-il précisément qu'au fond de moi-même, mon cœur dont je parlais tout à l'heure, soit véritablement livré. Et un cœur livré, c'est un cœur qui veut être à la disposition de Dieu loyalement.
Mais
en dépit de toutes les péripéties de son existence.
Donc on pourrait fort bien, finalement, passer toute sa vie d'une façon très honnête, droite, sincère, et ne faire jamais ce geste de venir à tout sûr, de trouver ces moments de silence dont vous nous parliez au début.
On peut passer toute sa vie sans venir à tout sûr, je le conseille volontiers. Mais on ne peut pas passer sa vie sans avoir ces longs temps de prière. Partons d'une comparaison toute simple. Un mari qui me dirait... « Oh, moi j'avais envie d'aller vivre en Amérique latine, je laisserai ma femme ici, mais ça ne changera rien, mon amour, vraiment, je l'aimerais autant de là-bas qu'ici. » Je dirais qu'il ne l'aime pas, parce que l'amour veut la présence. Et si je n'éprouve pas le besoin de cette présence à Dieu, qu'est la prière intérieure, c'est que je ne l'aime pas.
Donc il faut absolument, pour vous, trouver ces moments d'arrêt dans la vie, ces moments absolument où l'homme fait l'effort de se donner totalement à Dieu dans cette volonté de rencontre.
Fait l'effort, j'emploierai un autre mot, où l'homme tout simplement dit à Dieu très relaxé, je voudrais bien être tout à toi. C'est moins volontariste que ce que vous dites. Mais je crois en effet que cela s'impose parce que si on n'a pas ces moments de tête à tête avec le Seigneur, le cœur ne s'éveillera pas et on mourra sans connaître son cœur, on mourra sans connaître son identité, on mourra sans connaître le plus vrai de soi-même. Comment, en dehors de ce long temps de prière, pour tant d'Occidentaux qui sont dissipés par la vie moderne, comment rejoindre le cœur profond? Ils ne se connaissent pas, la plupart de nos Occidentaux. On a une vie centrifugeante qui vous projette au dehors. Alors il faut à tout prix faire le chemin inverse. C'est pourquoi ici, très volontiers, dans cette salle même, j'enseigne à ceux qui viennent cette prière qui est une adaptation d'une prière tamoule. Ô toi qui es chez toi, dans le fond de mon cœur, fais-moi te rejoindre dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi, dans le fond de mon cœur, fais-moi entendre ta voix dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi, dans le fond de mon cœur, garde-moi auprès de toi dans le fond de mon cœur. Dans cette prière, il y a justement la relation « je-tu » fondamentale de la prière. Et il y a le « je veux » être à toi, entendre ta parole, te rejoindre.
Et si je vous comprends bien, Henri Caffarel, cette prière, cette disposition, ce « je voudrais bien » est bienfaisant pour toute la vie psychologique, psychique de l'être humain.
L'être humain ne se construit qu'à partir de l'intérieur, qu'à partir de son noyau, qu'à partir de son cœur. L'être humain, sans cœur développé, il est la roue sans noyau, encore une fois. Mais les sources de la vitalité ne se situent pas au niveau biologique, au niveau de la sensibilité, au niveau de la vie mentale. Les sources de la vitalité de l'être humain se situent à ce niveau du cœur, parce que c'est là qu'il est en contact avec Dieu. Si j'osais l'expression, la comparaison, mon cœur, c'est le cordon ombilical qui me relie à Dieu. Et si je ne suis pas relié à Dieu, ben je n'ai pas de vie et je n'ai qu'une espèce de vie factice, artificielle. Et je m'épuise. On nous a tellement souvent dans la vie chrétienne dit, présenter la vie chrétienne comme une affaire de raison et de volonté, alors qu'il faut la présenter d'abord comme une affaire de vitalité. Que de jeunes ont été découragés entendant leurs éducateurs, leurs parents leur dire « il s'agit de vouloir, il s'agit d'agir raisonnablement ». On ne leur disait pas « mais d'abord, recourez à la source de la vitalité. Quand vous aurez une intense vitalité, mais l'intelligence, mais le cœur, mais le corps, mais toute votre vie sera intense. » Et la vitalité, la source de la vitalité est dans le cœur.
Qu'est-ce que l'amour de Dieu a apporté à votre amour pour les hommes?
Je ne dirais pas ainsi, je dirais que j'espère que un peu, à travers moi, a filtré l'amour de Dieu.
Henri Caffarel, je vous remercie.
Henri Caffarel a publié de nombreux ouvrages d'initiation à la vie spirituelle, dont 5 soirées sur la prière intérieure. Il dirige un périodique, Les Cahiers sur l'oraison.